RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Si vous voulez discuter avec les GG, ce n'est pas compliqué, c'est le 32-16. Si vous voulez venir voir les grandes gueules, ce n'est pas compliqué. Si vous êtes en vacances du côté de Paris, c'est au Salon de l'Agriculture, c'est au stand de la région des Hauts-de-France. On y est en direct jusqu'à midi. Profitez-en, c'est la DER des GG. Le salon, il se termine ce week-end. Et profitez-en. Jérôme Marty est avec nous, c'est l'Occitanie qui est représentée. Les Hauts-de-France, évidemment. C'est avec le camarade Antoine Niers. La Corse au cœur, c'est avec Laura Varton-Martinez. Les amis, les grandes gueules vont continuer jusqu'à midi. Je vous le disais, c'est la deuxième heure des GG. De quoi va-t-il être question tout à l'heure avec nos amis agriculteurs. Il a plu pendant 40 jours et les agriculteurs nous disent que les nappes phréatiques ne sont pas remplies.
Pas partout, mais dans les Hauts-de-France, c'est encore un problème.
Ouais, alors on va en parler tout à l'heure à 11h moins le quart avec eux. On évoquera aussi ce qui se passe pour les gens qui ne payent pas les loyers. Est-ce qu'on leur suspend les APL? Ou est-ce qu'on leur supprime les appels? Là, on évoque la suspension des APL. Est-ce que, alors, l'ami Antoine Dias, il m'a fait.
Geste, allez, on coupe tout.
On coupe à tout. Il a mis le coup de tronçonneuse. On en parlera tout à l'heure à 10h20. En attendant, évoquons avec vous au 32-16 les inégalités salariales. Inégalité salariale en fonction du nombre d'enfants.
Oui, alors on se plaint régulièrement en France, on ne fait plus assez d'enfants. Mais le problème, c'est que devenir mère, c'est faire souvent un renoncement à sa carrière. Et c'est ce que démontre une fois de plus cette étude de l'INSEE sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. À temps de travail équivalent, il y a une différence de 5,8% entre les deux sexes. Donc il y a toujours une différence entre les hommes et les femmes. Mais en plus, lorsque la femme a un enfant, eh bien, cet écart passe à 13,6% et même jusqu'à 28,2% pour trois enfants. Donc, une maman qui a trois enfants, elle sait qu'elle sera pénalisée dans sa carrière et donc sur le niveau de sa rémunération. Et on n'arrive pas à corriger cela. Donc si peut-être on veut que de nouveau les Français et les Françaises se remettent à faire des enfants, il faudra peut-être travailler là-dessus, non ?
Laura ?
Mais en fait, si vous voulez, il y a deux problèmes selon moi. C'est que on est encore dans une idée où en général les postes à responsabilité ou qui sont chronophages sont donnés à des hommes, ce qui fait que en général, et je le déplore, alors, ce sont les femmes ont des postes de second rôle. Et donc, du coup, la première, enfin, dans le couple parental, le premier ou la première qui doit se décaler pour s'occuper des enfants, c'est celui qui gagne le moins. Et donc, c'est la femme. Et ensuite, c'est cercle vicieux. Là, moi, je suis en train de porter pas mal de projets. J'évoque avec mon mari le fait que potentiellement il y a des soirs où je vais devoir rentrer plus tard et je pourrais pas récupérer. C'est un cataclysme. Alors que monsieur qui travaille énormément aussi, hein, je vais pas le dénigrer, mais il s'est jamais préoccupé de savoir comment on allait aller récupérer la petite ou si la petite était malade, comment on allait gérer pour le boulot. De facto, la tête se tourne.
La charge repose sur les épaules de la mère.
Mais c'est ça, dans le sens où, si vous voulez, combien de PDG sont à la tête d'entreprise et sont des hommes comparés aux femmes. Et c'est toujours ça le problème, c'est que on est toujours parti du principe, parce qu'il y a encore un vieux reste de patriarcat qui traîne, qu'une femme est quand même moins compétente qu'un homme, donc on leur donne des responsabilités plus élevées, donc des salaires plus élevés, ce qui fait que de facto la femme a un salaire moindre, et donc c'est ensuite quand on fait les comptes, c'est celui qui gagne le moins qui doit s'occuper du reste.
Jérôme, c'est rien de neuf sous le soleil.
Comment sortir de
une société qui n'a pas changé? Je vous rappelle qu'on a été obligé de mettre en place la parité en politique, parce que sinon c'était même pire que ce que tu dénonces. Il y avait absolument que des hommes. Et pour arriver à ce qu'il y ait des femmes en politique, on a institué la parité. Et dans le reste de la société française, on est resté sous le schéma que tu décris, c'est-à-dire le mec devant et la femme derrière, quoi. Et rien n'a changé. Et la différence salariale est une honte pour une société moderne. Après, il y a une problématique quand même. Il faut se demander pourquoi, aujourd'hui, en France, un couple avec des enfants, qui est CSP+, on va dire, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il y a une vraie problématique d'une société qui est devenue hyper chère, avec des charges qui sont par trop importantes, un pays qui est le plus fiscalisé d'Europe.
Avec un budget logement très important.
Un budget logement exactement très important. L'éducation des enfants, même si l'école est publique, ça coûte très cher aussi. Et c'est pour ça qu'il y a aussi moins d'enfants, parce que quand tu commences à avoir 2-3 enfants, ben, tu t'en sors encore moins. Et donc, il y a une problématique de la façon de voir les choses. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand tu es jeune même, tu gagnes moins, t'as moins d'espérance de gagner mieux que tes parents, alors qu'il y a 50 ans, c'était exactement l'inverse, quoi. Mmh. T'étais assuré de gagner mieux que tes parents, Antoine, aujourd'hui. C'est l'inverse. On a raté complètement notre société économique.
Tout ce que vous avez dit est très vrai sur la parité, sur le pouvoir d'achat, mais je pense qu'on passe à côté du cœur du sujet, là, qui est la politique familiale dans notre pays.
En réalité,
on a une baisse de la natalité, on manque d'enfants, et on n'aide pas les femmes à pouvoir avoir des enfants et une vie professionnelle si elles le souhaitent. Et je vous dis, des enfants et une vie professionnelle si elles le souhaitent, parce qu'en réalité, je pense que le chiffre du salaire plus bas pour les femmes qui ont des enfants, c'est qu'en réalité, la maman qui a des enfants pense à ses enfants, à moins d'investissement dans sa carrière, parce qu'elle a fait un choix de s'engager, d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants. Et donc moi, qui ne suis pas partisan des allocations, je dis, nous devrions dans notre pays avoir plus d'allocations familiales.
Un revenu maternel.
Nous devrions surtout avoir un revenu familial d'éducation.
Jusqu'à quel âge et de combien?
J'en sais rien, je ne suis pas encore candidat à la présidentielle. Ce que je veux te dire, c'est que je dis la maman, ça peut également être pour le papa, qu'un des deux membres du couple soit libéré de la charge professionnelle et qu'on fournisse, selon le nombre d'enfants, peut-être 1000 euros, peut-être 1500 euros, pour la retraite. Parce que on donne des trimestres pour enfants, mais en réalité, une maman ou un papa qui élève ses enfants, ça devrait compter des trimestres de retraite, permettre le retour au travail quand l'enfant a 10 ans, 15 ans.
Réglera aussi le problème de l'éducation avec des enfants qui seront plus suivis, mieux encadrés.
Je vais te dire, je pense même que on évite donc des coups de crèche, des coups de délinquance. Parce que si la maman est là quand le garçon sort du collège, et ben la maman elle s'assure qu'il soit rentré à l'appartement en sortant du collège.
Quoi, la maman?
Et ou le papa, je t'ai dit, ou le papa. Ne fais pas ce procès-là.
Non, il a un vieux réflexe.
J'aimerais dire ensuite qu'on doit absolument cesser le plafonnement des demi-parts fiscales. On a dit aux riches, on va vous plafonner vos demi-parts fiscales. Ben c'était encore une façon d'empêcher ceux pour qui les enfants coûtent plus cher encore que d'autres, parce que ceux qui gagnent bien leur vie, c'est qui travaillent beaucoup. Eh bien, on les a encore empêchés de faire des enfants. Bref. Ayons une politique familiale.
C'est complètement le chat qui se mord la queue, parce que moi je sais très bien que mon mari rêverait de pouvoir rester un peu plus tôt à la fin, de pouvoir rentrer un peu plus tôt à la maison, mais il est tellement chargé, il y a tellement de choses qui doivent être payées en annexe entre ce qui travaille, ce qui génère et ce qui touche, que du coup pour alimenter le foyer ça coûterait trop cher qui me remplace. Oui. Et là le sujet arrive, c'est-à-dire que notre unique fille a 6 ans, que mon mari veut un deuxième enfant, que moi ça commence à me titiller, mais je me dis là j'ai tous mes projets pro qui arrivent et que je suis fière et que je vais pas m'arrêter là, parce que ça c'est des combats associatifs.
Un revenu parental d'éducation, on te donnerait 1500 euros pour élever tes deux enfants. Tu arrêterais de travailler?
Non, j'arrêterais pas de travailler, mais peut-être que je me mettrais moins la rate au courbouillon.
Ou alors il y a peut-être aussi des prises de conscience dans les entreprises, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui pourquoi c'est un frein dans la carrière des femmes, c'est parce que c'est la femme qui va aller chercher l'enfant malade à l'école, c'est la femme qui va entre guillemets se sacrifier à chaque fois lorsque l'enfant a besoin d'un des deux parents à ses côtés. Si on partage mieux les responsabilités, si dans les entreprises on se dit pas inconsciemment si on nomme une femme avec trois enfants, ça va être un problème, parce qu'à un moment donné elle va vouloir repartir en vacances, finalement il faut mieux une femme célibataire ou un homme qui de toute manière ne gère pas trop ses enfants. Il sera là quand on veut, le week-end, tard le soir. Il y a aussi toutes ces mentalités à faire bouger.
Olivier, je pense pas qu'on se sacrifie quand on va s'occuper de ses enfants, qu'on soit l'homme ou la femme.
On sacrifie sa carrière?
Oui, non.
Bah si, mais moi je le connais, plein de femmes qui ont fait le choix, oui, et à un moment donné leur carrière c'est pas arrêté, mais a été considérablement freinée, parce que
la question qu'on doit se poser, si tu veux, quand on est un homme ou une femme, et a fortiori un couple, c'est que si tu veux des enfants, est-ce que c'est plus important que ta carrière ou pas.
Je suis pas d'accord.
Il y a un moment, quand même, où,
je suis pas d'accord de
il y a un moment où tu peux aménager le problème.
Je suis pas d'accord.
Pourquoi choisir? Il n'y a pas de sacrifice. C'est ça que je veux dire. C'est pas un sacrifice. C'est la construction d'une vie.
Oui, mais vous avez raté.
Après, qu'on ne puisse pas, si tu veux.
Il ne faut pas les opposer.
Et la baisse de la natalité en France est en lien avec ça aussi.
Ah oui.
Qu'on ne puisse pas investir sur l'avenir, c'est-à-dire construire sa famille avec des enfants et donc des enfants nombreux. C'est parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de politique familiale, mais aussi que les salaires sont trop chargés, que tu ne peux pas t'en sortir, etc., etc. Et donc, à un moment, quand même, il va falloir qu'on mise sur l'avenir. On rejoint le problème que, en France aujourd'hui, tu as 20 ans, tu es étudiant en médecine, ailleurs, quelque part, les banques ne te prêtent pas.
Je suis désolé, mais
il faut tout revoir.
Oui, mais vous déporter le problème vers la politique
non,
familiale.
Monsieur, non,
c'est pas ça. De politique familiale dont il s'agit.
Ah bah pour moi, c'est ça.
Mais non.
C'est que des femmes sont contraintes de continuer à travailler alors qu'elles voudraient élever leurs enfants, passer plus de temps.
Il s'agit simplement aujourd'hui.
Mais j'ai pas dit toutes les femmes.
De changer le regard et de se demander pourquoi, dans une entreprise, d'un coup, t'es freiné.
Ouais.
Alors que tu vas simplement mettre au monde un enfant. Pourquoi est-ce que d'un coup on te dit bah non, vous n'avez plus votre place ou vous n'avez plus votre poste ou votre salaire n'augmentera pas. Il est là le problème.
C'est pas
la politique familiale.
C'est un coup familiale. Aussi pour l'entreprise. Hein.
Mélodie va en parler avec nous. Elle est de Loire-Atlantique. Elle est assistante commerciale. Bonjour Mélodie.
Bonjour les GG. Bonjour tout le monde.
Est-ce que vous l'avez vécu ça? Est-ce qu'effectivement le fait d'avoir des enfants, ça freine la carrière professionnelle ou ça agrandit l'écart salarial?
Ah ben tout à fait, exactement. J'ai eu 3 grossesses. La première grossesse, j'ai été malade, ça a été compliqué. Je suis revenue de mon congé maternité, j'étais mise au placard.
Ah bon? Dans
donc,
votre boîte.
Clairement, ça a été compliqué. Ils m'ont
mise au placard, remplacée parce que vous étiez absente.
Non,
oui,
mise au placard dans le sens.
Elle est revenue. Oui, je suis revenue, je n'avais pas où m'asseoir, vraiment.
Vous avez remplacé définitivement.
Oui, c'est ça. Exactement.
Ouais,
et après, ils m'ont dit, enfin, ça a été jusqu'au prud'homme, donc c'était très compliqué.
D'accord.
Et on sacrifiait notre carrière, puisque j'ai eu 2 autres grossesses derrière. Malheureusement, ma deuxième grossesse a été compliquée, j'ai même été hospitalisée. On arrête tout. On est obligé d'être en arrêt. On s'arrête pendant 8 mois parce que j'ai pas le choix. Après, il y a eu le congé maternité. Et j'ai eu une troisième grossesse, pareil, malade. Extrêmement malade, on est obligé de s'arrêter dans notre carrière. Et c'est compliqué parce que le monde continue à avancer, sauf que nous, on est obligé de tout stopper, même si j'aime mes enfants. Mais c'est compliqué, contrairement à un père qui peut continuer de travailler.
Mais vous en aviez parlé avec votre direction, justement, quand vous êtes revenu?
Sur mon premier employeur, oui. Ah bah, j'ai dit, mais attendez, je fais. Mes collègues ont été augmentés, pas moi. Ah bah oui, mais t'es tombé enceinte. En fait, ça a été horrible. J'ai vécu une grossesse, un retour de congé maternité terrible. Et après,
oui, donc
j'ai
en fait, on est pénalisé de faire un enfant.
Oui, mais il faut pas aussi taper trop. Là où ce que raconte Mélodie, c'est juste odieux. Hein. Attention.
Cette histoire, tu peux la multiplier par 100. Hein.
Ah oui, non, mais
oui, c'est pas une question.
Bah, bien évidemment. Mais en revanche, il faudrait se poser aussi la question d'accompagner les entreprises, parce qu'il y a des entreprises petites et moyennes
où ça
leur coûte extrêmement cher d'avoir quelqu'un qui est en congé maternité parce qu'il continue de payer les cotisations sociales, mais en plus, ils doivent embaucher quelqu'un d'autre. Donc,
je veux dire, ça. Tu payes plus rien, c'est juste de la désorganisation. C'est-à-dire que moi, je vois
dans les petites boîtes, c'est plus compliqué.
Tu perds un poste et donc tu peux pas embaucher quelqu'un. Tu sais pas si la maman va revenir à l'issue de son congé maternité
quand,
ou si elle va enchaîner sur un congé parental.
Mais tu pourrais réfléchir.
C'est hyper compliqué en termes d'organisation et donc tapons pas trop sur les boîtes. Je veux dire.
Je viens de les défendre. Ce que je veux dire, c'est que on pourrait peut-être réfléchir quand on sait que la dame elle est enceinte. Et ben, on embauche quelqu'un qui est exonéré de charges, par exemple, pour faire le lien entre la dame au moment où elle va partir, faire exactement le même lien
pour aider les entreprises.
Si tu aides les entreprises, elles n'ont plus aucun problème. Il faut voir aussi combien ça peut leur coûter.
Voilà, et si tu as été remplacé durant ce temps-là, il faut peut-être accepter aussi de revenir sur un nouveau poste. Si tu es parti en congé parental, si
pendant 3 ans, c'est sûr.
Pendant 3 ans, on ne peut pas te garder ton poste, te faire les augmentations que les autres ont eues parce qu'ils ont travaillé.
Là où je trouvais que tu avais un drôle de biais, Antoine, toi qui fais plutôt attention à l'argent public. Du coup, cette carence des entreprises, tu la compenses par l'argent public, par le revenu maternel, Antoine Dierce.
Revenu parental.
Comment tu finances tout ça?
Attendez, je vais vous dire, je pense qu'on économise de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, il n'y a pas de place en crèche, garder mon enfant à l'école, à la garderie, payer la cantine. Et donc, je pense que tout cet écosystème de la garde de l'enfant coûte beaucoup plus cher que de donner 1 000 ou 1 500 euros à la maman et qu'en plus, Il y a beaucoup de coûts induits que tu ne vois pas. C'est que l'enfant bien éduqué par une maman présente, il sera plus performant à l'école, moins délinquant, etc. Donc je pense que mon système est, est bénéficiaire.
Moi, je vote pour la loi Barton.
Merci Mélodie de votre témoignage. Et on embrasse et on vous embrasse ainsi que tous vos enfants. Merci d'avoir été avec nous. Dites donc les amis, vous savez qu'on est sur le stand des Hauts-de-France. Alors on va faire une petite dégustation là maintenant. Ah, il nous reste
deux. Commencez à avoir faim.
Avant de faire la pause, attention. Viens Anaïs, viens avec nous parce que qu'est-ce qu'on apporte là, Anaïs? Dis-moi. Alors, tout de là. De la tartinade d'escargot.
Bonjour madame.
Comment vous appelez-vous?
Alors, je m'appelle Émilie Stragier.
Oui.
Et donc, je suis hélicicultrice dans l'Aisne.
Hélicicultrice?
Hélicicultrice,
c'est comme
ouais.
On dit, d'accord.
Ouais. Donc, je peux. Je
c'est produis, l'escargot.
C'est ouais. De l'escargot, ouais.
Ah, bah alors, escargot à 10h17 du matin, je
l'entends. On avait fait maroilles, hein.
Ça, c'est formidable.
Il n'y a pas mieux, t'as raison. On commence au maroilles à 9h et on enchaîne avec les escargots à 10h.
Je crois que c'est bien qu'on
va. Bah, et moi
Non, mais toi, tu animes, toi, tu parles et
moi, j'aurais bien aimé goûter les escargots. Attendez. C'est magnifique, j'adore les escargots en plus, on n'en mange pas assez.
Ah, mais j'adore ça.
Ouais, c'est délicieux.
Pas très bon. Super.
Merci,
bon.
C'est gentil.
Allez, dans un instant.
Attendez, mais ça fonctionne bien, ça marche bien, vous êtes content là?
Oui, oui, ben, j'ai 250 000 escargots.
250 000 escargots voilà. Ils ouais. sont tous là.
Non, ils ne sont pas tous là.
Félicitations, parce qu'on ne sait pas assez en France que beaucoup d'escargots qu'on mange sont des escargots d'importation.
Ah oui,
qui viennent notamment de Pologne. Et là, on a des escargots des Hauts-de-France.
Il y a plein d'escargots en France. On est fiers d'en produire ici chez nous. On est amateurs d'escargots, autant manger français.
Mangeons des escargots français.
Et on a même, vous avez même un métier d'avenir, celui de devenir héliciculteur, c'est-à-dire éleveur d'escargots.
Comment,
c'est
comment on l'écrit, héliciculteur?
Comme ça se prononce avec un H. C'est la
y a des L,
comme dans escargot. C'est la ferme de partie Est dans l'Aisne. Bienvenue et bravo à Émilie Stragier. Suite des GG dans un
merci
instant.
Beaucoup.
Désolé, on déguste.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules, toujours en direct de la région des Hauts-de-France, du stand des Hauts-de-France, ici, au hall 7 du Salon d'Agriculture. Nous sommes en direct jusqu'à midi avec Laura Varton-Martinez, la sophrologue, avec le docteur Jérôme Marty, avec Antoine Diers, le consultant juridique. Et dans les GG, dans les Grandes Gueules, et toujours avec vous au 32-16, on va évoquer les impayés de loyer. Est-ce que dans ces cas-là, il faut suspendre ou supprimer les APL, c'est-à-dire les aides pour le logement? C'est au 32-16 que vous en parlez avec nous. Débat à venir maintenant donc dans les GG.
Oui, jusqu'à présent, l'aide personnelle au logement, c'est de l'argent public, l'APL, l'ALF ou l'ALS, il y a plusieurs critères, plusieurs niveaux, était maintenue même si le locataire ne payait pas son loyer.
Formidable.
Alors, on s'est dit, on va maintenant verser directement cette APL au propriétaire, comme ça, lui... il ne subit pas effectivement le fait que son locataire ne paye pas. En fait, c'est toujours de l'argent public. Et alors, la justification de dire oui, mais ça évite l'expulsion et ça permet quand même d'aider de tout le monde. Est-ce qu'il faut être un peu plus sévère et dire il n'y a pas de raison de financer finalement le fait que des gens ne payent pas leur loyer, parce que encore une fois, c'est nos impôts. Et donc, faut-il suspendre ou carrément supprimer l'APL? Alors, bon, le propriétaire, ouais, qui se débrouille, on n'a qu'à peut-être expulser plus facilement le locataire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Antoine.
L'APL, déjà, est un mauvais système. On ne va pas refaire tout le débat, mais je pense qu'ils maintiennent artificiellement les loyers trop hauts.
Bref, un effet pervers, c'est-à-dire que pervers. Ça pousse le propriétaire à faire des loyers plus élevés.
Exactement, parce qu'il y a de l'argent public qui arrive. Voilà. Quand ça n'est pas versé directement au propriétaire et que le locataire ne paye plus ses loyers, évidemment que les APL doivent être suspendues, mais même, je vais aller plus loin, donnons un petit coup de pouce aux propriétaires, soutenons les propriétaires qui font face aux impayés et indiquons que tout locataire qui aurait un niveau d'impayé trop important se verrait privé à vie d'APL. eh ben, je peux vous dire que les gens y réfléchiraient à deux fois avant d'arrêter de payer leur loyer, puisqu'ils n'auraient plus le droit aux APL à l'avenir, et qu'enfin, on soutiendrait les propriétaires et on remettrait comme ça du logement privé sur le marché. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le propriétaire privé ne veut pas mettre son appartement en vente ou il a été en location, il a été échaudé parce qu'il avait des impayés. Et donc, il y a plein de logements qui ne sont pas sur le marché. Soutenons les propriétaires.
L'APL, ça peut aller jusqu'à 579 € par mois pour trois personnes à charge.
Laura.
Ouais, moi, je suis oui d'accord, oui pas d'accord. Dans le sens où, effectivement, il faut protéger les propriétaires, surtout les petits propriétaires dans le pays dans lequel nous vivons actuellement. Ils ne le sont absolument pas et ils sont encore vus comme les méchants de l'histoire. En revanche, il faut continuer d'aider. Vous avez des familles qui, sans APL, ne pourraient pas se loger. Et il faut continuer de les aider.
Est-ce
maintenant.
Que les billets sont trop?
Peut-être, et parfois, ce n'est pas qu'une question que de loyer, Antoine. Et ce que je veux dire, c'est que quand on voit... Il faut arrêter de toujours tout globaliser. Quand on voit qu'il y a un locataire qui ne paye pas son loyer, il y a un truc qui s'appelle les assistantes sociales. Vous allez dans l'appartement. Si vous voyez que c'est une famille qui fait ce qu'elle peut pour s'en sortir, avec ses gamins, on continue de les aider. Maintenant, si on
voit... Vous faire du cas par cas.
Ben oui, je suis désolée. Maintenant, si on voit que le gamin, il est habillé avec un jogging de marque, de la tête aux pieds, qu'il a la dernière console PS4, qu'il a ceci, qu'il a cela, bon bah là, gars, t'as qu'à faire tes priorités.
Non, l'APL, c'est pour payer le loyer. Si ils n'utilisent plus l'APL pour payer le loyer, mais qu'ils l'utilisent pour faire d'autres choses, il y a un problème.
Sauf que tu
mais
sais pas, si on supprimait, sauf si tu mets pas ta tête dedans.
Oui, mais Laura, si on supprimait le principe même de l'APL, est-ce que ça ferait pas baisser automatiquement tous les loyers de France?
Exactement.
Ah, bien sûr, mais je pense quand même qu'il y aurait encore des familles qui se retrouveraient dans une grande précarité.
Et donc, le problème, c'est celui de l'offre de logement.
Du logement social. Et aujourd'hui, tu as une difficulté. Le parc de logement social est immense en France, contrairement à tout ce qu'on dit. Il est occupé largement par des personnes qui n'y ont plus droit ou qui sont dans les catégories les plus élevées. Et donc, ne demandons pas aux propriétaires privés de France de prendre la charge. Tu dis ils sont défavorisés, on va les maintenir dans le logement.
Je dis qu'il faut aider les propriétaires. Je dis que ceux qui se servent de l'APL pour avoir un confort de vie, ceux-là, ils tègent. En revanche, les familles qui ont besoin des APL, on doit continuer.
Jérôme, le parc HLM en France, c'est 15% des ménages français. C'est plus de 10 millions de personnes qui sont logées dans des HLM en France.
Ne laissez pas croire que tout est facile. Je veux dire, la gestion d'un accident de vie, c'est compliqué. La personne qui perd tout d'un coup son emploi, c'est compliqué. Oui. Donc si tu n'as pas un délai pour te retourner, si au bout de 4 mois, de 6 mois, il n'y a pas de solution et que la personne n'a pas fait sa recherche, n'a rien fait pour trouver un autre appartement, n'a rien fait pour...
Il y a des aides. Quand tu perds ton emploi, ce n'est pas l'APL.
N'a rien fait pour arriver.
Tu parles fini. C'est pas d'un pays pour le propriétaire.
Je te dis que le propriétaire aussi, il faut l'aider dans ces cas-là. C'est pareil. Mais laisser à croire, comme tu le dis... dès l'instant où la personne ne paie pas, on supprime tout et puis qu'il se démerde, c'est malheureusement pas comme ça que ça marche.
L'APL, c'est fait pour payer le loyer. Si la personne ne paye pas son loyer, on lui donne plus l'APL. Enfin, essayons d'être.
Mais comme ça, tu l'enfonces un peu plus.
Mais l'APL ne veut pas compenser le
choix
de
le choix de ne tout d'un coup pas payer son loyer et je suis propriétaire de différents trucs. Tu as des fois les gens qui ne te paient pas, ils te payaient jusque-là, il leur est arrivé un truc grave qui fait que pendant quelques temps, ils ne peuvent pas payer. Et si tu les enfonces encore plus, tu seras pas réglé pour pas un moment.
On peut aller au supermarché en expliquant, écoutez, je vais pas vous payer le caddie parce que je suis dans une période difficile.
Ah non, tu peux demander à la banque, par exemple, de suspendre les prélèvements du prêt bancaire. Ah oui, par contre, on va toucher aux riches et là, ça va faire chier tout le monde.
Non, moi, je te parle du propriétaire qui, moi, ma hantise, c'est un jour que j'ai un locataire, un jour qu'il arrête de me payer parce que moi, chaque mois, il y a l'emprunt qui tombe.
On va prendre un exemple concret
du côté de la Corrèze. On va aller à Brive avec Fakina qui est agent caisse d'allocation familiale. Bonjour Fakina.
Oui, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous dites si justement la personne ne paye pas le loyer? On suspend ou on supprime les APL, dites-moi?
Non, en fait, il y a déjà une suspension et je comprends pas trop, en fait, l'annonce qui a été faite, puisque moi, je travaille à la CAF, je réponds pour les appartements 77, 91, 93, 95. Quand un locataire appelle pour dire « je ne comprends pas, mon aide au logement est suspendue », ben, si, c'est parce qu'il a un impayé de loyer, tant qu'il n'a pas fourni ce qu'on appelle un plan d'apurement, qui dit qu'il a trouvé un accord avec son bailleur ou avec l'office HLM, peu importe le bailleur, ben, il a pas l'aide, hein. Elle est suspendue. Donc ça existe déjà, la CAF suspend déjà. Donc il n'y a pas de, de plan d'appurement, on ne paye pas l'aide au logement.
Oui, mais et Fakina, ça se présente beaucoup ou pas, ces cas-là?
Ah oui, tous les jours. Moi, j'en ai tous les jours, 10 ou 15 par jour. Il y a plusieurs, même des choses des fois qui sont injustes, parce qu'il faut savoir que même si le bailleur ne fournit pas un justificatif qu'il doit fournir tous les ans pour dire que son locataire a payé son loyer, est à jour de ses loyers,
Et quels sont les motifs dans ces cas-là d'impayé, alors, Fakina, alors?
Bah, les gens, y a beaucoup de précarité, donc les gens n'ont pas... Il y a un changement, ils n'ont pas la situation professionnelle, ils ont pris des loyers trop chers pensant que la CAF allait payer, mais il faut savoir que la CAF, si dès le départ vous choisissez un loyer trop élevé, il n'y a pas forcément l'aide au logement, il y a des changements de situation, voilà, les mamans isolées.
Il y a des séparations aussi.
Des séparations, bien sûr.
Perte
d'emploi, séparation.
Les séparations, pardon, mais la première cause... En général, d'appauvrissement, c'est la séparation l'un des deux parfois se retrouve en difficulté à ne plus pouvoir payer le loyer.
Donc, c'est bien pour ça que la CAF continue même des fois à payer, même s'il y a une séparation sous le même toit. Parce qu'on sait que c'est difficile de se loger, on accepte la notion de séparation sous le même toit.
Ah oui, et il y a beaucoup de gens qui sont séparés et qui continuent à vivre ensemble parce qu'ils n'ont pas d'autre choix.
Oui. Exactement.
Du coup, ils boivent, du coup, ils sont malades. Et ils vont voir.
Jérôme, ça fait 40 ans qu'il est dans cette situation avec sa femme, par exemple.
Fakina, il ne faut pas croire que ce sont uniquement des magouilleurs et des magouilles aux APL.
Il y en a. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas. C'est hypocrite de dire qu'il n'y a pas de gens qui sont
c'est pas la majorité.
Et qui profitent. Ce n'est pas la majorité. Mais ça
merci
existe.
De ce
on
ne
va pas dire que ça n'existe pas.
Oui, donc on est en train d'inventer un truc qui existe déjà.
En même temps, c'est l'art de gouverner.
C'est pas le macronisme, ça.
Non, en fait, c'est
quoi le macronisme?
Non, mais ils ont réduit la barre.
Non, mais ce qui est terrible, Fakina, c'est qu'une fois de plus, on a des responsables politiques, tu vois, qui peuvent prendre des mesures, qui ne sont pas sur le terrain.
C'est un peu bizarre d'ailleurs comme
annonce. Alors, ça, Fakina, c'est une bonne proposition. Je pense que si les ministres en charge de ces dossiers venaient avec vous une journée dans un centre d'appel, ils découvriraient un peu la vraie vie. La vraie vie des vrais gens.
Si tu veux, normalement, il a.
Mais non, parce qu'ils ont des rapports. Non, mais comment
Olivier,
ça marche
dans un ministère? Ils sont des conseillers.
Oui, mais
le gars au moins.
Oui, mais un conseiller.
Qui bosse pas, putain.
Mais parce que les conseillers, ils n'ont pas été voir Fakina. C'est des gens qui. Et c'est d'ailleurs le problème, à mon avis, d'Emmanuel Macron sur les sujets comme ça. C'est-à-dire qu'il pense savoir parce qu'il a lu des rapports, il a lu des études, on lui a expliqué. Mais si passer une journée avec Fakina à répondre effectivement à des gens qui appellent et qui expliquent leur vie, leurs difficultés, etc., il verrait que la vraie vie.
Moment où il a la proposition, il demande, il regarde, il tape sur internet, il se renseigne. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que ça existe?
Mais tu veux qu'il travaille? Aussi, Alain, tu veux que ça va pas, non?
Mais tu crois que monsieur Farandou, qui est un garçon formidable, qui a été patron de la SNCF, qui est ministre du Travail, mais tu crois que monsieur Farandou, il sait précisément comment ça se passe dans la vie des gens?
Agatha veut intervenir et je remercie Fakina d'avoir été dans les GG. Agatha, bonjour.
Bonjour.
Qui est chargée RH. Agatha, vous êtes, vous avez des appartements.
Elle n'a pas qu'un seul d'ailleurs.
Oui.
Et c'est combien? 15 appartements.
Bien, félicitations, Agatha.
Ah oui.
Merci.
Et un peu comme Jeffrey Epstein, quoi, autant.
Non.
C'est-à-dire que. Jeffrey, lui, il en avait un qui faisait 800 mètres carrés. Fakina, elle en a 15 qui font 60 mètres carrés et elle arrive au même résultat, finalement. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes confronté, vous, à ces non-paiements avec les APL dites-moi alors.
Écoutez, ça arrive régulièrement qu'un locataire ait des problèmes. Nous, on est très arrangeants, on fait des échéanciers, il n'y a pas de souci. Mais là, en l'occurrence, j'ai une de mes locataires qui ne paye plus déjà depuis plus de 6 mois. Sachant qu'elle avait déjà eu un échéancier l'an dernier, elle a payé la moitié de l'année. Donc là, en septembre, on a fini par saisir la caisse des allocations familiales. Et la caisse des allocations familiales nous paye à peu près 200 euros sur les 450 euros de loyer. Mais perdu.
Donc,
il y a
quand même de la perte.
Clairement.
Agatha, il faut qu'elle soit aidée, mais il faut aussi voir pourquoi cette locataire en arrive là.
Vous savez pourquoi elle est arrivée dans cette situation?
Avec elle. En fait, c'est une jeune femme qui a l'air totalement paumé. On a appelé la personne qui s'était portée garante, son papa, apparemment, qui est en prison. Son enfant lui a été enlevé. Enfin, c'est une situation dramatique.
Oui.
Donc,
là, c'est un drame.
On n'a pas non plus envie qu'elle se retrouve dehors, mais je pense que là, je suis.
Non, mais c'est pas à vous de porter. C'est pas à vous de porter ce. C'est pas à vous voilà, de porter ce poids-là, Agatha. Là, par contre, tu vois, Antoine,
déjà plus d'un an et demi. Pour moi, je l'aide, quoi. Donc.
Ah mais c'est pour ça. Vous perdez de l'argent.
C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des accidents de la vie. Divorce, maladie, perte d'emploi, etc. Maladie, moi j'ai eu une locataire à une époque qui avait un syndrome de Diogène.
Ah, elle a cumulé.
On s'est retrouvé avec un appartement qui avait des ordures jusqu'au plafond. On a fait trois bennes. Il a fallu qu'on arrache jusqu'au placo, tu vois, qui était, parce que l'appartement était complètement détruit. Mais il a fallu d'abord qu'on amène cette dame à se soigner.
Oui, mais si
ce problème-là, et tu es bloqué.
Si cette dame était dans l'appartement du jeune Antoine, mettons, qui s'endette à 25 ans pour essayer de préparer son avenir et qui est pris là, et ben cette dame, elle aurait pu bousiller la vie de quelqu'un d'autre, du propriétaire en l'occurrence, parce que tu peux pas la sortir. T'as mis combien de temps à la sortir?
Des mois.
Bah voilà.
Et oui, mais c'est comme ça. C'est
bah non.
Mais
non,
mais
merci c'est Agatha d'avoir été dans les GG. J'espère que la situation s'arrangera. Alors, on va regarder, justement, on a posé la question comme ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'en cas d'impayé de loyer, il faut suspendre ou supprimer les APL? On va voir ce que vous en pensez. Vous dites suspension, voilà, à plus de 80%, sachant que le système existe déjà, comme nous l'a précisé Fakina il y a quelques instants, qui travaille à la CAF du côté de la Corrèze. Suite des GG dans un instant, en direct de la région des Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
On débat comme tous les jours avec les GG, avec les Grandes Gueules, et on termine la semaine au Salon de l'Agriculture, au stand de la région des Hauts-de-France. Nous y sommes, nous y avons été lundi, on y était hier, nous y sommes encore aujourd'hui avec Jérôme Marty, avec Antoine Diers, avec Laura Varton-Martinez. C'est un plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas que lundi nous serons à Nice, à la Villa Masséna, pour parler des élections municipales. Nous y serons en direct et en public de 9h à midi, avant le grand débat le soir entre les frères ennemis de la côte, Christian Estrosi, le maire sortant, et Éric Ciotti, le challenger qui voudrait bien lui piquer la mairie de Nice, eux qui étaient proches et qui aujourd'hui sont en véritable guerre politique pour gagner la mairie de Nice. Ça, ce sera lundi. Aujourd'hui, c'est les Grandes Gueules au Salon de l'Agriculture. Des Grandes Gueules qui vous offrent des vacances. Faut pas l'oublier, il est 11h moins le quart et c'est à 11h15 qu'on aura le gagnant tout à l'heure, Bellambra, 45 clubs, hôtels et vacances. C'est pour vous, c'est du séjour premium, tout compris. On dit premium, all inclusive, comme on dit dans le Schnorr.
Évidemment, hein. All inclusive.
Donc c'est pour vous choisissez votre destination, mer, montagne, campagne, vous faites comme vous voulez. Vous avez juste à envoyer vacances par SMS au 73216. Vacances par SMS au 73216. Tirage au sort tout à l'heure à 11h15. Le séjour est pour vous. On va rester dans les Hauts-de-France maintenant, parce qu'en plus on a le régional de l'étape, je vous rappelle, le Dunkerquois Antoine Diers. On va s'intéresser justement maintenant à toute la pluie qu'il y a eu dans les Hauts-de-France et savoir si nos nappes phréatiques sont bien remplies.
Oui.
Mais on va parler de l'agriculture aussi d'une manière générale. C'est Françoise Crété qui est avec nous. Elle est vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-France. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Et vous êtes en charge plus particulièrement de la gestion de l'eau dans les Hauts-de-France. Là, on se dit, il a beaucoup plu partout en France, notamment dans le nord de la France. Donc on est tranquille, les nappes phréatiques sont pleines et on va pouvoir passer les prochains mois, voire l'été, sans difficulté.
Oui, c'est pas du tout une certitude. Ah. On a déjà eu il y a 2 ans des inondations dans la Somme, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais aussi, où on a mis 600 millions de mètres cubes à la mer avec de grosses pompes que nous sommes allés chercher à l'extérieur. Ah. Et au mois de juillet, on avait certains coins qui étaient en vigilance sécheresse. Donc c'est quelque chose qui est supportable une première fois lorsqu'on n'a jamais vécu les choses. Lorsque on sait que ça va arriver, notamment lorsqu'on lit les rapports du GIEC, voilà, on sait qu'on va avoir des pluies, des périodes très pluvieuses et des périodes très sèches. Il nous semblerait intelligent qu'on mette toute notre énergie en Hauts-de-France à gérer l'eau et non plus à la subir.
Mais voilà. Par exemple, est-ce qu'on stocke l'eau? Là, il y a eu un trop-plein. Là, est-ce qu'on a mis des bassines pour stocker l'eau et pouvoir effectivement affronter ensuite les périodes de sécheresse?
Alors, en Hauts-de-France, on n'a pas de bassine. Donc, pour l'instant, on ne peut pas la stocker. On peut la stocker que dans les sols, en ayant des techniques qui permettent la réinfiltration. Voilà. On est en train, puisque vous savez que nous avons ce grand ouvrage qui arrive chez nous avec le canal de Seine-Nord-Europe qui va relier l'Europe à Paris, eh bien nous sommes en train de regarder comment on peut trouver, justement, puisqu'on met de l'argent, on bouge du sol, comment on peut trouver des outils de gestion de l'eau et notamment comment on peut en profiter pour faire des réserves d'eau qui seraient utiles quand on a soif.
Mais les écolos n'en veulent pas.
Ouais, en fait, on ne sait pas trop. Tout le monde râle pour faire les choses, mais on a aussi un paquet de normes qui nous empêchent de faire les choses. Hein. Il n'y a pas que les écolos.
C'est, ça, ouais. c'est quoi ces normes? Ce sont des normes européennes, des normes françaises?
C'est beaucoup de papier.
Ah oui, la bureaucratie.
Ce sont des normes. En fait, on a quand même beaucoup de bureaucratie et puis il y a quand même des gens qui doivent être utiles. Donc, leur utilité, elle est de faire des normes. Et donc, elles les font.
Pour justifier son boulot.
C'est quoi ces exemples d'absurdité bureaucratique? Alors, ou de temps perdu avec la bureaucratie?
Par exemple, regardez là, on a notamment ces réserves, là, le canal. Il faut faire des études pour protéger le milieu, pour regarder si on a des eaux en excès. Et on avait mené une étude au niveau Hauts-de-France avec les chambres d'agriculture sur les hautes eaux. Déjà, nous n'avons pas la même définition du mot hautes eaux.
C'est quoi les hautes eaux?
La définition pour l'administration, c'est 3 jours par an. Et pour nous, c'est quand ça déborde. Enfin, très franchement, voilà. Alors après, on a besoin d'avoir des normes. Attention. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et là, c'est un autre sujet, c'est qu'on n'arrive plus à vendre nos normes et qu'on se met en difficulté à cause de nos normes. Et là, ça ne va plus. Voilà.
Non, mais... Jérôme.
On a maintenant une cartographie précise des zones qui sont inondables et qui sont malheureusement inondées année après année.
Année
après année. Des phénomènes qui arrivaient tous les 20-25 ans, maintenant c'est tous les 4 à 5 ans. Et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas des grands travaux avec des bassins de rétention qui sont faits un peu partout, qui vont empêcher l'eau justement d'aller sur ces zones-là et qui vont permettre de la mettre en réserve. C'est plus que des méga-bassines, quoi. Il faut qu'on fasse d'immenses zones de rétention qui peuvent être à l'entrée des villes, enfin dans les zones inondables, mais qui vont empêcher, qui vont faire un effet tampon et qui vont à la fois servir de réserve. Et c'est même pas fait.
Au moindre chantier, on a sous des nos mecs yeux, chevelus qui vont mettre des pompes
devant. On a sous nos yeux, concrètement, les effets du changement climatique. Et on continue, comme vous le dites, à le subir. Parce qu'on ne veut pas être proactif par rapport à ça, parce qu'on a des pudeurs de pucelle par rapport à des groupuscules.
Tu veux mettre des ZAD partout en France?
Non, mais à un moment, il faut avancer. Même l'écologiste, quand il a eu 3 fois sa maison inondée, il revoit ses calculs. Hein.
Après, on a quand même à aller apprendre des autres pays. On a d'autres pays qui ont vécu la même chose.
Les Pays-Bas voisins, notamment.
Les Pays-Bas, mais notamment aussi le Maroc, enfin des changements climatiques importants et qui ont géré. Et nous aujourd'hui, et même d'ailleurs l'Italie, l'Espagne. Alors eux, ils ont d'autres politiques. Eux, ils considèrent que toute l'eau qui tombe est précieuse et donc qu'il faut la garder sur le territoire. Nous, on considère que l'eau qui tombe, il faut la laisser aller à la mer. Et c'est là où on n'est pas... Enfin, je caricature un petit peu, mais c'est quand même...
Le débat est là.
Le débat qui est là. Et alors, par contre, on a un autre... Voilà, on est, nous, dans les Hauts-de-France, la première région agricole. Et aujourd'hui, on voudrait aussi nous dire, écoutez, l'eau, il faut la laisser aller, il faut... des zones inondables très très vastes, c'est-à-dire laisser votre territoire être inondé parce que l'eau elle a son droit. Mais c'est ridicule, il faut gérer l'eau parce que nous, notre production, c'est vital aussi pour nous et pour les autres.
Bien sûr.
Du fait de l'action humaine, l'eau a été complètement déviée et détournée, et que donc, qu'on le veuille ou non, que les écolos soient d'accord ou pas, il faudra une action humaine pour que l'eau revienne au bon endroit et soit utile de la bonne manière, puisque là les sols sont engorgé. Les cultures, ça va être extrêmement compliqué de planter et d'avoir des cultures correctes. Et qu'ensuite, au mois de juillet, on va nous dire il n'y a plus d'eau. Et là, on va avoir les écolos qui vont dire oui, c'est le réchauffement climatique. Non, non, non.
Tu évoques l'action humaine, mais on a l'impression, globalement, on entend souvent que ce serait la nature, tu vois, la nature qui existerait à l'état pur. Alors qu'en réalité, c'est déjà l'action humaine qui a asséché des marais, canalisé l'eau, permis de vivre. Canaux. Et donc, en réalité, les écolos font une erreur en pensant que la nature vivrait bien par elle-même. L'homme a toujours façonné les paysages. Et donc aujourd'hui, moi, je l'ai déjà dit ici, je vis à Dunkerque, qui est une ville gagnée sur les marais, où il y a tout un traitement de l'eau.
Mais comme on l'a déréglé, et donc, il faut qu'on re-règle.
Et donc, en réalité, on n'investit plus dans la gestion de l'eau depuis des années. La GEMAPI, la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. On ne construit plus de digues, on ne construit plus de drainage, on ne gère plus nos fossés, etc. Et donc, je suis persuadé que c'est un désinvestissement comparable à tout ce qui se passe dans l'ensemble de nos services publics, où plus personne ne gère rien et tout part à volo. Eh bien, remettons de l'argent sur la gestion de l'eau.
Et alors, moi, je dirais une dernière chose, c'est qu'il faut qu'on ait confiance dans nos territoires. En fait, il ne faut pas... Quelquefois, on a alors l'Europe qui nous dit continuité écologique, il faut enlever tout sur l'eau, il faut laisser aller l'eau à la mer le plus rapidement possible. On a la France qui met d'autres normes, qui fait remplir beaucoup de papiers, notamment. Et puis... on a quand même, nous, une région, et moi là, j'ai fait l'inauguration de mardi du stand Hauts-de-France et de la Somme, avec le conseil départemental, avec les services de la préfecture et avec donc les services du conseil régional. On a suffisamment de matière grise et de pertinence pour normalement pouvoir travailler.
Est-ce qu'ils sont d'accord entre eux, moi ou pas?
Écoutez, moi j'ai entendu pour la première fois à l'inauguration le mot production. Ah. On commence à comprendre qu'on ne va plus avoir les moyens de nos rêves. Et qu'il faut repartir dans de la réalité des choses. Vous voyez, je vous ai amené des choses.
Là, on parle de choses importantes quand même.
Soyons sérieux maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez appelé
l'eau? On a de la soupe.
L'eau, c'est bien, mais le dur, c'est le solide.
Voyez, là, c'est mon côté. Alors, les Hauts-de-France, vous voyez, ils sont premiers dans beaucoup d'agriculture de grosses filières, mais on a aussi des personnes qui, là, par exemple, médaille d'or pour le fromage blanc au concours du général du salon de l'agriculture. Vous voyez?
Médaille
ça, c'est Monsieur Grégoire. Blanc. Voilà, alors, Monsieur Grégoire. Fromage, c'est des éleveurs laitiers. Nous avons de la soupe à l'asperge.
Faites circuler le fromage, qu'on voit ça de près.
Non, vous allez en prendre. Alors là, j'ai été un peu chauvine. J'ai pris que des prunis de la Somme. Bah, je suis désolée. Mais il y a beaucoup de choses.
C'est les Hauts-de-France. On est tous mariés maintenant.
Oui, voilà. Alors, il y a notamment des AOP. On a le maroilles, on a le champagne, on a les AOP pressalés, on a des IPG. Donc, on a beaucoup de choses en Hauts-de-France. C'est vrai qu'on a certainement besoin de communication pour les mettre en valeur.
J'ai vu que vous nous aviez apporté de la soupe d'asperges aussi, de Viron Chaud, de le maraîchage de Viron Chaud de chez Mickaël Torel. Soupe d'asperges. Qui aime les asperges? Qui aime la soupe?
J'aime pas trop la soupe, mais suis prêt à en boire pour soutenir les Hauts-de-France.
Non,
moi, elle est super bonne, franchement, super bonne.
Allez, hop, c'est
un maraîcher qui fait tous les légumes, qui travaille beaucoup avec Somme Produits Locaux, hein, puisque dans la Somme, nous avons notamment un partenariat avec le Conseil Général pour pouvoir produire pour nos collèges, et tous nos collèges ont des produits à 50% pour nos élèves de produits de la Somme.
Juste d'un mot, moi, je parle très bon. Hein. Pour terminer, notre discussion avec vous, Françoise Crété. Là, on est au salon de l'agriculture. Il a été assez calme, pour une fois, malgré la colère des agriculteurs. C'est apaisé chez vous, la colère agricole, dans les Hauts-de-France, ou pas? Ou ça sera reparti pour un tour très vite?
En fait, il y a la colère, et maintenant, il y a la réalité. La réalité est très compliquée. On a... en fait, on est obligé, moi, présidente de chambre d'agriculture, mon souci, c'est d'entraîner, malgré le marasme, des agriculteurs vers des projets. Parce qu'il faut toujours penser à demain. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir sortir des difficultés. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, je pense que le territoire est important, parce que les solutions... c'est ensemble, dans nos territoires, qu'on peut les porter et qu'on peut amener des choses, trouver des alternatives.
Merci dans tous les cas.
Merci Françoise Crété
d'être venue parler
cultivateurs d'eau.
Excusez vos.
Il faut peut-être lancer les cultivateurs d'eau.
Oui, tout à fait.
Dans un instant, la troisième heure des GG et ça se conclura cette troisième heure des Grandes Gueules avec le défi de Laura Vartan-Martinez, ouvrir des coquilles Saint-Jacques tout à l'heure.
Mais sans se blesser.
Tu auras ton tuto avec toi. Troisième heure.
chez vous. Hein.
Des grandes gueules dans un instant. On va évoquer, vous avez vu, le forfait hospitalier va augmenter.
C'est de plus en plus cher l'hôpital.
Le forfait de soins, alors ça augmente, mais ça se dégrade. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et vous venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.